Chers auditeurs, bonjour. Nous abordons aujourd'hui la troisième partie de cette série de conférences intitulée « Face à la crise ». Je vous laisse entre les mains du pasteur Gilberto Araujo.
Chers amis, bonsoir à tous. Nous sommes très contents et nous avons le plaisir de vous revoir encore. Et nous voyons qu'encore ce soir, il y a de nouveaux visages parmi nous. Alors, avant de commencer notre réunion ou avant de commencer la discussion de ce soir, j'aimerais quand même identifier quels sont ceux qui sont ici depuis le samedi soir. Est-ce que je peux voir vos mains? Depuis samedi soir, c'est-à-dire samedi, dimanche et aujourd'hui, certainement, vous êtes là. OK? Quels sont ceux qui sont venus aujourd'hui ici par la première fois? Laisse-moi voir la main. Ah, encore, nous sommes contents. Il y a quand même pas mal de gens. Donc, nous voulons vous souhaiter la bienvenue et nous espérons que, comme le thème de ce soir, n'est-ce pas, nous propose, qu'en sortant d'ici, vous ayez plus de réponses dans vos cœurs que des questions. Alors, avant de commencer la causerie ce soir, je vous propose de regarder une petite vidéo qui va nous aider davantage à comprendre les sujets que nous voulons vous présenter.
Un homme était tombé dans un trou, donc il ne pouvait remonter. Un voyageur passa par là et dit à l'homme de méditer pour purifier son esprit, car il avait besoin d'atteindre le nirvana pour que toutes les souffrances cessent. L'homme en fit ainsi, mais il resta dans le trou. Un autre homme apparut. Il lui expliqua que rien de tout cela n'était réel, et que tout ce qui l'entourait n'était qu'illusion. Il lui dit qu'il ne pouvait être dans un trou qui n'existe pas. Un autre voyageur arriva. Il instruisit à l'homme de faire de bonnes œuvres pour améliorer son karma, afin qu'après sa mort, dans le trou, il soit incarné en quelque chose de meilleur. D'en haut, un autre homme regarda le bas du trou. Il dit à l'homme de prier 5 fois et lui dit de suivre ses 5 piliers. Il lui dit que s'il était fidèle, un jour peut-être, il serait libre. L'homme pria du mieux qu'il put, mais c'était trop dur et le trou demeurait. Un autre homme apparut. Il était différent des autres. Il appela l'homme dans le trou et lui dit « Veux-tu être libre ?» Et cet homme descendit lui-même dans le trou. Il porta le pauvre homme sur ses épaules et l'emmena à la lumière. Et l'homme qui était tombé dans le trou fut sauvé.
Comme vous le voyez, il y a beaucoup de philosophies, des religions qui sont plus des questions qui donnent des réponses. Et ce dont l'homme a grand besoin aujourd'hui, ce n'est pas des philosophes ou des gens qui augmentent le nombre de questions dont ils ne trouvent pas une réponse, mais plutôt ceux qui peuvent répondre ou apporter une réponse aux questions les plus intimes de tout être humain. C'est pour cela que nous allons aujourd'hui travailler beaucoup avec notre Bible. Et donc, pour vous aider, j'ai essayé d'utiliser la Bible qui vous est donnée à l'entrée. Donc, à chaque verset de la Bible que vous allez voir sur l'écran, nous avons donné les pages pour vous aider donc à vous en sortir. Mais nous allons discuter, voir, étudier ensemble si le Christ, son message, sa vie, sa mort, sa mission, sa résurrection, comme les autres, apporte plus de réponses ou complique davantage les réalités dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Est-ce que dans l'intime de notre cœur, le Christ, bien comme sa parole, font du bien à nous ou pas? Donc pour cela, nous vous invitons à suivre avec nous le sujet de ce soir. D'abord, il faut établir un postulat vis-à-vis de notre discussion. Et celui-ci trouve ce postulat dans la Bible elle-même. Quand nous lisons dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 8, nous trouvons ce postulat dans les mots suivants. Je vous invite à la page 806 pour ceux qui ont la Bible comme celle que vous avez reçue à la porte, à l'entrée. Donc, ce postulat va établir les commencements et les fondements, la fondation de tout ce que nous allons discuter ce soir. Qu'est-ce qu'il est écrit là? 1 Jean 4, chapitre 4, verset 8. Il dit, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Ici, la parole de Dieu ne dit pas que Dieu il a amour, mais c'est partie de sa nature, de son essence. Dieu, il est amour. Et tout ce qu'il fait, toute relation qu'il a avec les êtres humains, tout ce qui se passe dans cet univers et le monde comme nous l'avons vu hier, qu'il a créé, nous devons comprendre d'abord que ça doit se baser sur cette vérité absolue et éternelle. Dieu, il est amour. Alors, au commencement, contrairement à ce que nous avons vu hier, la parole de Dieu nous dit que Dieu, dans son amour, il a tout créé. Alors, nous n'avons pas assez de temps, c'est pour cela que vous pouvez prendre note si vous voulez. Mais si vous ouvrez la parole de Dieu encore dans les premiers livres de la Bible, les premiers chapitres, nous allons voir ici dans la page 3 que lorsque Dieu a créé, incroyablement, soit dans les versets 4, 10, 12, 18, 21, 26, pour chaque chose que Dieu créa, à chaque jour de la création, la Bible finit en disant que Dieu vit que cela était bon. Alors quand nous ajoutons cette affirmation avec le postulat sur lequel nous basons ce soir, que Dieu est amour, nous devons comprendre que Dieu a tout fait parfait dans son amour pour le bien de celui qu'il allait placer dans ce monde sur lequel il est créé. Mais finalement, Genèse chapitre 1, versets 26 et 27 nous fait une affirmation. Que lorsque Dieu a créé l'être humain, c'est-à-dire l'homme et la femme, différemment de l'affirmation que la Bible avait faite avant, elle dit qu'en vérité, Dieu avait vu qu'il avait fait toutes les choses très bien. Alors, nous vous invitons à lire Genèse chapitre 1, versets 26 et 27, en suivant dans la page 3 toujours. Qu'est-ce qu'il a dit là? Il dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Et verset 27 dit, et Dieu créa l'homme à son image, il créa l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dans son amour, non seulement Dieu a tout fait pour le bien de l'homme, en étant prévoyant, en préparant le monde pour que l'être humain puisse y habiter, y être joyeux et heureux, mais maintenant, Dieu va au point même dans son amour de créer l'homme et la femme à son image et à la ressemblance de Dieu. Ici, la parole de Dieu ne dit pas que Dieu nous a créés comme lui, mais semblant à lui. Il y a une grande différence entre dire que nous avons été créés comme Dieu, étant donné que la Bible ne dit pas ça, sinon autrement nous serions nous-mêmes Dieu. Mais dans son amour, il nous a fait semblables à lui. Il a alors, dans le verset 31, comme nous venons de dire, quand Dieu finit de créer l'homme, Dieu était tellement content ça, avec sa création, avec la manière parfaite dans laquelle il avait créé, que la parole de Dieu dit qu'il a créé quelque chose qui n'était maintenant pas bon, mais très bon. Pas encore complet, puisque l'homme devrait aussi développer et davantage grandir dans le sens moral, dans le sens social et spirituel aussi. Mais parfait. Si vous pensez, par exemple, à un pommier, alors l'arbre, un pommier, quand il est en fleur, nous pouvons dire que l'arbre est parfait, n'est-ce pas? Et aussitôt, elle commence à pousser les premières petites pommes, nous disons toujours que les petites pommes sont encore parfaites. Mais quand finalement nous voyons la pomme rouge prête à être cueillie, nous disons qu'elle est toujours quoi? Parfaite. Donc Dieu a créé les choses parfaites dans tous les différents stages, mais pas encore complet. Et la même chose vis-à-vis de l'être humain. Donc, le plan de Dieu pour l'humanité prévoyait le bonheur de l'homme, la joie, un monde parfait, un homme créé parfait, vivant dans un environnement parfait, où tout collaborait pour la joie, le bonheur de l'être humain. Et la Genèse, chapitre 2, versets 7, 8, 9, 15, 16 et 17, vont nous révéler cela. Je vous invite, c'est à la page 4, à suivre avec moi la lecture. D'abord, dit l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Voilà comme la Bible révèle la création de l'homme. Nous vivons aujourd'hui grâce à l'amour de Dieu et grâce à cette vie que Dieu nous communique à tout instant. Et ensuite, dit puis l'Éternel Dieu planta un jardin. Donc Dieu va lui-même bâtir la maison, le jardin, dans lequel l'homme et la femme doivent vivre. Du côté de l'Orient, il y mit l'homme qu'il avait formé. Et alors dit, l'Éternel Dieu fit pousser du sol, des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et alors, dans le verset 15, dit, « L'Éternel Dieu prit l'homme et les plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Et l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger de toutes les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras. » Donc, selon ce que nous lisons dans la Bible, Dieu a prévu tout ce qu'il fallait, tout ce dont l'homme avait besoin pour être donc un homme dans une vie heureuse, joyeuse, pleine de bonheur. Et comme nous le voyons ici, il n'y avait rien qui manquait. Cependant, Dieu voulait aussi voir la croissance, le développement de cet homme qu'il avait créé. Et pour cela, Dieu a placé quelque chose dans le jardin, qui était l'interdit à l'homme. Dieu voulait faire de cela le symbole de la vie, le test pour la croissance et la maturité du caractère moral de l'homme. Donc, pour cela, la Bible dit que d'un côté, Dieu a placé un arbre qui s'appelait l'arbre de la vie. En mangeant cela, n'est-ce pas, l'homme allait révéler à Dieu qu'il avait compris les tests de Dieu, ces symboles de l'amour de Dieu vers l'homme. L'obéissance représenterait les droits à la vie éternelle. C'est pour cela que l'arbre s'appelait l'arbre de la vie. Cependant, comme nous avons vu dans la lecture, il y avait aussi l'arbre qui symbolisait la mort. Par la désobéissance à la parole de Dieu, l'homme allait révéler à Dieu qu'il n'était pas content avec le plan de Dieu. Alors Dieu l'avait clairement informé, les jours où vous en mangerez, vous allez mourir. Et ça est devenu clair à tous nos parents à l'homme. Donc Dieu a tout prévu pour le bonheur de l'homme. Cependant, la Bible ne garde pas seulement les bonnes nouvelles, mais prouvant que la Bible est le livre de Dieu, elle révèle aussi ce qui n'a pas marché dans les plans de Dieu. Et nous avons connu donc la chute, ce qui est révélé ici dans le livre de la Genèse. Et nous lisons, à partir du verset 1, toujours dans la même page 4, « Les serpents, verset 1, étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Voilà comment les malins s'approchent de l'homme. En utilisant partiellement la parole que Dieu avait dit, mais pas tout à fait comme Dieu l'avait dit. C'est pour cela que l'arbre s'appelait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est lorsque le bien est mélangé avec le mal, ou le mal se mélange avec le bien, qu'il devient le plus dangereux. Qu'est-ce qui est plus dangereux? Si quelqu'un vous apporte une portion de poison pour que vous buviez, ou alors s'il mélange quelques gouttes dans un verre de l'eau minérale. Certainement, vous allez dire, le plus dangereux, c'est lorsqu'il est déguisé parmi la bonne eau minérale. De la même façon, les malins, ils utilisent les mots de Dieu, mais d'une manière tordue, pour faire sembler comme si Dieu avait triché vis-à-vis de l'homme. Donc, voilà comment les choses étaient à présenter. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Alors que Dieu avait dit plutôt quoi? Le contraire. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Et elle a même ajouté quelque chose que Dieu n'avait pas dit. Vous ne toucherez pas. Point. De peur que vous ne mouriez. Alors, qu'est-ce que le serpent a dit comme réponse? Le serpent, l'ennemi, les malins a répondu, dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais alors il ajoute, mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, voilà comment maintenant les malins commencent à introduire à l'homme la connaissance du mal, mais d'une manière très agréable, attractive. Il dit, voilà, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Et la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Pas mal de fois, les dirigeants religieux font croire aux gens que le péché, c'est quelque chose, ou le mal, c'est quelque chose très minable, quelque chose qui ne se présente pas d'une façon agréable. Cependant, en lisant la parole de Dieu, nous voyons qu'il est malin, contrairement à ce que nous croyons, il a présenté les choses d'une façon très attirante, attrayante. Et c'est comme ça que toujours le mal se présente à nous. Apparemment, bon, beau, attirant, comme quelque chose qui va nous donner davantage, mais les résultats finaux sont toujours cachés à nous. Aujourd'hui, je travaille en Afrique du Sud. Savez-vous que les pays où il y a le plus grand nombre de Sidiens dans le monde se trouvent en Afrique du Sud? Plus de 6 millions de personnes. Certainement, ces jeunes gens, bien comme ces hommes et femmes, ils n'ont jamais compris lorsqu'ils ont été attirés pour la vie telle comme elle était, qu'à la fin, ils allaient, n'est-ce pas, moissonner la maladie, la mort. Pourquoi? Parce que lorsque les choses se sont présentées à eux, se présentent toujours avec, n'est-ce pas, une raison très agréable. Vous voyez la publicité à la télé, par exemple. Quelles sont les publicités les plus belles qui existe, n'est-ce pas celle de la boisson, de la cigarette, ou encore la vente, n'est-ce pas, des choses de caractère immoral? Pourquoi ça? Parce que c'est toujours comme ça que l'ennemi se présente à nous. Apparemment, créant chez l'homme et la femme une certaine insatisfaction avec ce qu'ils ont, et en procurant à apprendre à nous que derrière ou dehors de là où nous vivons, il y a quelque chose de plus attirant, quelque chose qui va nous donner encore davantage la sagesse, la beauté, ou ainsi de suite. Et c'est de cette façon que l'ennemi s'est présenté. Et nous voyons que les résultats, c'est ce que nous connaissons aujourd'hui dans la théologie comme les péchés. Alors, les péchés, c'est quoi? Si nous lisons la Bible, nous allons voir que les péchés, c'était la méfiance de l'homme par rapport à la parole de Dieu. Dieu avait dit une chose et l'homme n'a pas cru à la parole de Dieu. Ou nous pouvons dire encore que la meilleure définition du péché est l'amour. Oui, un amour détourné. Un amour, n'est-ce pas, qui devrait être dédié à Dieu et qui était maintenant détourné vers soi-même, vers son propre ego. Ou encore, comme dit la parole de Dieu dans 1 Jean 3, 4, nous vous invitons à aller à la page 806, l'explication biblique pour les péchés, c'est celui que nous lisons là, 1 Jean chapitre 3, selon l'épître de Jean chapitre 3, verset 4 à la page 806. Qu'est-ce qu'il nous a dit là? 1 Jean 3, 4. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Dieu avait donné dans son amour un commandement assez clair à nos premiers parents. Ne pas manger. Pourquoi? Parce que dans sa sagesse, Dieu savait que la désobéissance, la méfiance en Dieu allait corrompre le caractère de l'homme. Et l'homme, maintenant, au lieu de vivre une vie joyeuse, abondante, allait connaître les malheurs et les conséquences de cette méfiance en Dieu. Malheureusement, cette transgression, non seulement a été négative vis-à-vis de l'homme, mais nous avons tous été, d'une certaine façon, aussi responsables ou nous avons moissonné les résultats de cela. Alors, les conséquences de cette action de méfiance, de manque d'amour à la parole de Dieu, de comprendre que tout ce que Dieu demande de l'homme, c'est pour le bien de l'homme lui-même, a coûté à nos premiers parents et par conséquence à nous aussi des graves conséquences. Et là, nous voyons tout de suite, lorsqu'ils ont donc péché, les conséquences se présentent. À la page 3 et 4, nous lisons dans le verset 10, « Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Et l'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Et la femme répondit, voilà, disons quoi? Les serpents. Et nous voyons ici maintenant les premières conséquences du péché. L'homme qui commence maintenant à se bagarrer avec la femme en accusant Dieu. Et la femme qui s'excuse en aussi blâmant Dieu pour le mal qu'elle-même avait décidé. Et à partir du verset 16, il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit alors à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras de la nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. » Donc, non seulement la nature humaine a été corrompue maintenant avec le péché, mais l'environnement dans lequel l'homme lui-même il habite est corrompu aussi. Il commence maintenant à subir les conséquences du péché. Ce monde, mes chers amis, dans lequel nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas le monde idéal que Dieu avait créé pour l'homme et pour la femme. Malgré encore pouvoir témoigner certaines choses qui sont belles dans ce monde, mais nous voyons toujours que derrière, n'est-ce pas, la fleur, il y a quoi? En bas, il y a les épines. Derrière des belles choses que nous voyons, il y a aussi toujours les réalités de la présence du mal et du péché aujourd'hui. Alors, c'est pour cela qu'Ésaïe, d'une manière très claire, nous présente que le péché, c'est lui le responsable pour la division, la séparation et l'éloignement entre l'homme et Dieu. C'est pour cela que lorsque nous péchons, c'est pour cela que lorsque nous désobéissons, nous n'avons pas envie de voir Dieu, de s'approcher de Dieu, d'entendre parler des choses de Dieu, des choses religieuses. Alors Isaïe 59, 2, à la page 479, dit le suivant. « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent de sa face. » Alors devant, n'est-ce pas, cette conséquence, Dieu essaye de présenter maintenant une solution à cela. Ils prennent une initiative. Puisque Dieu, il est conscient, il connaît que le péché ne permet pas à l'homme de s'approcher de Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Il fait le contraire. Ils prennent l'initiative. Et alors c'est Dieu lui-même qui s'approche de l'homme, qui cherche l'homme, qui le recherche partout pour faire que l'homme revienne à lui, s'approche de lui. Et nous lisons ça. Déjà, la première attitude et l'initiative de Dieu, aussitôt l'homme pécha, aussitôt l'homme se méfie de Dieu, il transgresse la loi de Dieu, il devient un rebelle contre Dieu et son autorité. Qu'est-ce que fait Dieu? Est-ce qu'il commence à maudire l'homme? Est-ce qu'il commence à chercher à faire la peau de l'homme? Est-ce qu'il essaie de faire le mal à l'homme? Pas du tout. La parole de Dieu nous dit dans le verset 8, 9 de Genèse chapitre 3, les suivants. Nous lisons. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Donc c'est Dieu qui, dans son amour, va derrière l'homme. Alors mes amis, si aujourd'hui, vous et moi, nous sommes ici, c'est tout simplement parce que nous avons répondu à l'appel de Dieu, à sa recherche, à l'initiative divine. Autrement, si nous étions dans l'état dans lequel les péchés nous a corrompus à tous, l'homme ne s'approcherait jamais de Dieu. Et Dieu donc fait à l'homme la plus grande promesse, celle que nous lisons dans le chapitre 3, verset 3, chapitre 3, verset 15 plutôt. Il dit là, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. » Ici, nous voyons donc la promesse que Dieu fait à l'homme en disant, « Puisque tu as péché, puisque tu t'éloignes de moi, tu doutes de moi, tu te méfies de moi, tu ne veux plus mon amour, donc je te fais une promesse. Au lieu que toi, tu puisses récolter, moissonner les conséquences de ta désobéissance, que c'est la mort, je trouverai quelqu'un qui va venir et mourir à ta place. Il fait la promesse qu'entre toi et les serpents et les malins, il y aura une inimitié. Imaginez, mes amis, si ce n'était pas cette promesse de Dieu, qu'est-ce qui serait de nous? Si nous n'avions pas dans notre cœur une certaine inimitié contre les malins. Imaginez si nous étions tous des bons amis, des copains, n'est-ce pas, avec les malins. J'ai un ami qui toujours il dit que moi et lui, nous sommes comme ça. Mais il dit, Gilberto, tu as toujours le tordu. Hein? Si nous étions, n'est-ce pas, des amis aux malins, nous serions toujours quoi? Les tordus, n'est-ce pas? Mais grâce à la promesse de Dieu, il a dit, « Je mettrai en toi une inimitié. Vous ne pourrez jamais apprécier à tout jamais les mâles. » Et c'est grâce à cette inimitié, c'est grâce à cette semence que Dieu a plantée dans nos cœurs que nous pouvons répondre à son appel d'amour, à son action. Et donc, Dieu prend une décision, un acte qui c'est très clair, mais pas mal de gens ne les voient pas dans la parole de Dieu. Là, dans les versets 21 du chapitre 3, voilà que Dieu, il va prophétiser sa mort en remplaçant l'homme pécheur. Et nous lisons donc, toujours dans la page 5 maintenant, au verset 21, ce que Dieu a fait. Il dit, « L'Éternel Dieu fit à Adam et à Ève, à sa femme, des habits de peau, et il les en revêtit. » Or, Si Dieu a fait un habit de peau pour revêtir, symbolisant de cette façon que Dieu allait revêtir la nudité de l'homme, je vous demande d'où est-ce qu'il vient cette peau. Certainement, un animal a dû mourir pour donner sa peau pour habiller Adam et Ève. Et cet animal symbolisait exactement un agneau auquel prévoyait et prophétisait qu'un jour, Dieu enverrait son Fils Jésus-Christ pour prendre la place de l'homme, pour mourir à la place de l'homme, pour que l'homme puisse donc avoir la joie de la vie éternelle. Alors, comme conséquence d'être fils et fille d'Adam, nous sommes tous alors des pécheurs. Et Romains chapitre 3, verset 10 nous laisse ça très clair. J'ai un ami un autre jour qui disait, « Gilberto, écoute, je n'ai jamais tué quelqu'un. Je n'ai jamais volé quelqu'un. Alors comment est-ce que tu peux dire que je suis dans un trou? Que j'ai besoin maintenant de quelqu'un qui vienne me sauver. » Mais ce n'est pas ça que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu ne nous dit pas que si tu es un homme moralement correct, que voilà, vous n'avez pas de problème. Mais puisque nous sommes des enfants d'Adam et Ève, nous avons hérité aussi la corruption du péché, et malgré toute notre justice humaine, nous sommes encore, selon la parole de Dieu, des pécheurs. Et pour cela, Romains, donc à la page 734, nous révèle cette triste réalité à laquelle nous devons tous comprendre si nous voulons aussi nous en tirer. Car Dieu ne pourra jamais sauver quelqu'un qui ne se croit pas avec des problèmes. Dieu ne jamais pourra apporter une réponse à quelqu'un qui n'a pas encore posé la question. C'est pour cela que nous devons comprendre que la situation sine qua non pour recevoir la guérison, c'est de comprendre que nous sommes malades et d'aller chez le médecin pour qu'il puisse donc diagnostiquer notre maladie. Pas mal de gens, malheureusement, ils cherchent la solution ou la guérison quand c'est trop tard, n'est-ce pas? Mais ici, grâce à Dieu, Dieu lui-même, comme le médecin divin, il nous dit que nous sommes malades du péché et que nous n'avons qu'une seule solution, celle qu'il nous propose. Alors, je lis là, Romains chapitre 3, verset 10, il a dit dans la parole de Dieu, « Selon ce qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. » Et le verset 23 complète, « Car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. » Alors, les péchés, mes chers, c'est réel, il est désastreux. Il n'y avait rien de poisonneux dans les fruits lui-même. Et les péchés n'étaient pas simplement là pour complaire à l'appétit. Mais, il dit, c'est manquer de foi en la bonté de Dieu et en sa parole, en rejet de son autorité qui a rendu nos premiers parents des transgresseurs et a amené au monde la connaissance du mal. C'est une porte ouverte à toute espèce de mensonge et d'erreur. Envisageant le déluge du mot qui a submergé dans le monde à la suite de la transgression originelle, il est écrit, bien des personnes déclarent que ces effroyables conséquences ne sont nullement en rapport avec un péché minime. À la fin, c'est quoi ça? Ce n'est pas grave. Elles en prennent prétexte pour incriminer la sagesse et la justice de Dieu. Pas mal de gens, n'est-ce pas, blâment Dieu pour l'existence du mal aujourd'hui. Des choses qui ne vont pas mal. Si elles voulaient envisager cette question de plus près, elles verraient leur erreur. Ayant créé l'homme à son image, exempt de péché et destiné à remplir la terre, d'être peu inférieur aux anges, Dieu ne pouvait permettre qu'elle se peuplât d'une race rebelle à ses lois. Il fallait donc la mettre à épreuve. C'est pour cela donc que Dieu avait fait ça. Alors, les mauvaises nouvelles de ce soir, mes amis, c'est que selon la parole de Dieu, nous avons déjà découvert, mais si vous voulez, il y a encore d'autres versets, que vous et moi, nous sommes des pécheurs et nous ne pouvons pas nous en tirer de cette situation. Et nous vous invitons à lire Romains chapitre 8, verset 7, à la page 737, simplement pour confirmer cela. Chapitre 8, verset 7, il dit, « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. » Aujourd'hui, si vous allez chez les stades de football, chez les grandes maisons de spectacle, vous allez voir pas mal de gens qui sont là prêts à écouter, à payer même très cher pour le faire. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, très peu de gens sont disposés à l'écouter. Pourquoi? Pour cette raison ici. L'inimitié contre Dieu depuis l'entrée des péchés. Mais Dieu nous a promis une réponse à cela. Et ça, nous trouvons en Jean, à la page 688, Jean chapitre 3, verset 6. Et j'aimerais cette fois-ci que vous puissiez tous me suivre dans cette lecture, parce que c'est un verset que nous avons, ou que nous, pas mal d'entre nous, connaissons très bien. Et c'est lequel? Jean 3, 16. Alors, je vous invite à suivre avec moi, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Donner son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, la solution, la réponse à cette question sont les bonnes nouvelles de Dieu. Dieu se dispose à envoyer dans son Fils celui qui est l'agneau de Dieu pour enlever les péchés du monde. Nous lisons ça dans Jean 1, 29, à la page donc 687. Qu'est-ce qu'il est écrit là? 29 dit, « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Et finalement, je vous invite comme dernière lecture de ce soir, celle d'Ésaïe, chapitre 53, et qui nous présente donc la prophétie de la mission du Messie. Ésaïe 53, versets 1 à 12. C'est à la page 476 dans la Bible qui vous a été empruntée à l'entrée de cette salle ici. Ésaïe 53, et nous allons lire avec certains commentaires. Il dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Dieu lui-même avait prévu que lorsque les gens entendraient parler du péché et de la solution du péché, pas mal de gens n'allaient pas vouloir comprendre cela. Il s'est élevé devant lui comme une faible plainte, parlant du Christ, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Et voyons comment la personne du Christ est ici décrite. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. C'est-à-dire, Dieu ne voulait pas du tout qu'il soit l'attirance physique du Christ, qu'il fasse avec que l'homme s'approche de lui. Méprisé et abandonné des hommes, verset 3, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Et voilà comment pas mal d'entre nous, nous le voyons. Nous l'avons dédaigné. Nous l'avons fait de lui aucun cas. Aujourd'hui, nous pouvons dire que la majorité des gens, ils réagissent exactement de cette façon vis-à-vis de Christ. Ils le dédaignent. Ils ne voient rien d'important dans la personne du Christ. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a apportées, c'est-à-dire les conséquences du péché, la culpabilité du péché qui devrait tomber sur nous, qui devrait nous causer la mort, Christ a pris sur lui. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. La guérison, la solution du péché, se passe toujours à travers de la personne du Christ, car il a pris notre culpabilité, notre condamnation, notre péché, il l'a mis sur lui-même. Comme ça, il a payé la rançon pour que vous et moi, que nous soyons guéris, que nous ayons la solution du péché et que nous soyons libres à jamais. Alors, il continue en disant, « Car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendu. Et ce n'est pas à prix, pardon. Les châtiments qui nous donnent la paix tombaient sur lui. Verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Mes amis, quand Christ a donné sa vie sur la croix, c'est ça qui s'est passé. Christ a pris ce qui devrait être notre conséquence, la mort. Il a mis sur lui pour qu'il puisse nous donner donc la vie éternelle. Il y a quelques temps de cela, j'ai entendu une histoire qui m'a beaucoup fait comprendre l'amour de Dieu. Un garçon par le nom de Richard, très malin. Vous connaissez ce genre de garçon que les parents ont des difficultés même de les maîtriser tellement ils ont de la vie, ils courent partout. Alors ce garçon était simplement avec sa maman, une veuve, qui s'occupait de lui et essayait de l'apprendre à vivre une vie correcte. Mais aussitôt la maman se tournait pour faire quelque chose à la maison, les garçons toujours se mettaient dans des situations vraiment très difficiles qui obligeaient toujours la mère pour aller là, régler la situation. Et pas mal de fois, elle se voyait dans la situation honteuse d'y aller s'excuser auprès des voisins pour les mauvaises choses que son fils Richard avait fait. Il volait ici, il détruisait là-bas, il faisait vraiment des choses incroyables. Alors les voisins étaient toujours en train de réclamer à la mère du comportement de ces garçons. Alors un jour, et c'est Richard lui-même qui raconte cette histoire, les pommiers du voisin étaient les plus attirants que jamais. Les pommes bien rouges, comme si presque appelant lui, venez, n'est-ce pas? Je suis prête à toi, je suis, n'est-ce pas, plus jamais savoureuse. Et sa mère, connaissant son fils, l'a appelé et dit, Richard, venez ici. Vous voyez les pommiers du voisin là? Oui, maman. Vous savez que ces pommiers ne vous appartiennent pas, n'est-ce pas? Non, oui, maman, je sais que ce n'est pas. Alors, vous savez que si vous, n'est-ce pas, grimpez les murs et vous tombez dans les terrains du voisin pour voler cela, ça, ce n'est pas bon, n'est-ce pas? Oui, maman. Alors, Richard, laisse-moi vous dire une chose très claire aujourd'hui. Si par hasard, les voisins ou moi ou quelqu'un vous prend en train de voler les pommes des voisins, Richard, cette fois-ci, vous allez payer pour votre désobéissance. Ah oui, tu as bien compris, Richard. Oui, maman, c'est clair. Oui, vous ne pouvez pas toucher. Vous ne pouvez pas même vous approcher de cette arbre. Vous avez compris? Oui. Et pour rendre la leçon, n'est-ce pas, puisque la maman ne voulait jamais que son enfant grandisse comme un menteur, un voleur, donc pour faire sa leçon bien claire à son enfant, elle a pris les bâtons. Elle a montré maintenant les bâtons dans sa main. Elle dit, bon, Richard, est-ce que vous voyez ces bâtons-là? Oui, maman. Vous savez normalement pourquoi on utilise ces bâtons? Oui, maman. Alors Richard vous dit, si je vous prends cette fois-ci en train de voler les pommes de voisins, je vais utiliser ces bâtons 10 fois sur ton dos. Tu as compris bien ça? Oui. Compte avec moi, Richard. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. 10 fois, je serai obligé à te fouetter avec ces bâtons pour que tu apprennes, Richard, à être obéissant. Et les garçons ont dit, oui, maman, clair, clair. Le soleil était plus que jamais beau. Richard sort, n'est-ce pas, pour se promener. Et de temps à autre, il jette les regards vers les pommiers du voisin. Il ne pouvait pas croire. Il n'avait jamais vu les pommes si belles comme ces jours-là. Alors, il dit, c'est la peine, parce que les voisins, vous voyez, il ne donne pas la valeur qu'il fallait à ses pommes. Parfois même, je vois des pommes qui sont tombées par terre et lui, il laisse pourri là-bas. N'est-ce pas de la peine de voir ses pommes gâtées comme ça? Et avant même qu'il puisse réfléchir une deuxième fois, où était Richard? Sur le pommier. Alors qu'il, n'est-ce pas, le maximum possible, essayer de tirer la main pour prendre la plume la plus belle, il entend une voix. Richard! Il a tout à coup compris que c'était la voix de qui? Sa mère. Alors vite, il fait tomber la pomme qu'il venait de prendre. Il retourne, n'est-ce pas? Il saute les murs. Et voilà sa mère qui se présente devant lui avec quoi? Les bâtons. La faute avait été commise. Maintenant, la punition devrait se suivre. Alors Richard, dans ce moment, quand il voit les bâtons sur la main de sa mère, il devine tout de suite ce qui va se passer. La scène, n'est-ce pas, déjà est là devant ses yeux. Et comme un garçon qui ne veut pas subir les conséquences de sa faute, qu'est-ce que fait Richard? Il se met à genoux devant la maman et il dit, « Maman, maman, s'il vous plaît, maman. C'était la dernière fois, maman, je vous jure, plus jamais, maman, s'il vous plaît, ne faites pas ça, maman. » Et la mère dit, « Richard, la faute a existé. Qu'est-ce qui doit se suivre? N'est-ce pas? » Et Richard, maintenant, plus que jamais, fait le théâtre. « Maman, mais je suis tellement petit, maman, toi tu es tellement grande, comment as-tu le courage de prendre ces bâtons et me frapper 3, 5, 6, 10 fois sur mon dos, maman? Pas du tout, maman, s'il vous plaît, je vous demande pardon, maman. Maman, pardon, c'est la dernière fois, maman, maman, ma petite maman, s'il vous plaît. » Alors, quelle est la mère qui, devant cette situation, ne sent pas pitié de son enfant? Alors la mère dit, Richard, lève-toi. Alors tu ne veux pas que ces bâtons soient sur ton dos, n'est-ce pas? Non, non, maman, s'il vous plaît. Il commençait déjà à voir que le cœur de sa mère, n'est-ce pas, commençait à devenir tendre. Alors la maman a dit, d'accord, Richard. Puisque le mal a existé, il faut que la punition existe aussi. Venez ici. Et les garçons, sans comprendre ce que la mère allait faire, s'approchent de maman et elle prend les bâtons, met dans la main de Richard, tourne son dos et dit, Richard, la faute a existé. La loi était claire. La transgression était claire. Il faut suivre quoi? La punition. Mais puisque tu ne veux pas, toi, Richard, subir la punition, donc maintenant vous allez fouetter 10 fois les dos de ta mère. Pasteur Richard, qui est l'un des orateurs du programme La Voix de l'Espérance aux États-Unis, dit que ce jour-là, il a pleuré comme jamais. Parce que comment pouvait-il, lui, à cause de sa faute, de sa désobéissance, faire subir 10 coups du fouet sur le dos de sa mère? Pour lui, c'était impossible. Mais mes amis, ce que Pasteur Richard n'a pas eu le courage de le faire à sa mère, nous l'avons fait à notre Sauveur. Parce que le péché a existé. Et selon la loi de Dieu, selon la loi de l'univers, au péché doit suivre quoi? La punition, la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et puisque nous ne voulions pas mourir, subir les conséquences de nos désobéissances, Dieu nous a donné son Fils pour qu'il puisse prendre la place qui était à vous et à moi pour subir la punition, lui, pour que vous et moi, nous ayons les droits de la guérison, de la joie et de la promesse de la vie éternelle. Alors ce soir, nous allons écouter une musique spéciale. Je vous invite à méditer à l'acte divin d'amour et à prendre une décision ce soir de choisir le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. De dire à lui, Seigneur, je veux votre pardon. Je veux que vous puissiez me donner la vie éternelle. Je ne le mérite pas. Je comprends que je suis pécheur, mais j'accepte ton plan de salut pour que je puisse vivre ici et à tout jamais la vie de bonheur que tu as préparé pour moi.